Avec Aurélien Boucher, conférencier historien, on va parler de Châlons, bien sûr. Châlons sous l'occupation, période néfaste.
Complètement, oui, oui. L'abbé Gillet, qui a écrit ses souvenirs et qui était résistant à l'époque, elle va dire c'est Châlons sous la botte. Voilà, effectivement, on n'a pas de chance du tout. On va avoir l'Alsace-Moselle qui va être annexée au début de... Bah après, voilà, la défaite de 40. Et donc Châlons, avec sa belle ligne qui fait Paris-Est-Strasbourg au niveau du train, bah on se retrouve à avoir un tiers des trains du Grand Reich qui vont transiter par Châlons-en-Champagne.
Et on a déjà le traumatisme quand même de la bataille de Verdun pour la Première Guerre,
oui,
qui n'est pas si loin.
Effectivement, et donc les Chalonnais se disent, voilà, qu'est-ce qui va nous arriver ? La ville avait été évacuée. On a une bataille du 12 au 15 juin 40. On a 12 000 Allemands, Heinz Guderian, pas n'importe qui, 150 chars, déboulent à Châlons face à 550 soldats français qui ont 130 obus à tirer.
Donc,
ils vont faire ce qu'ils peuvent. Mais effectivement, donc on fait sauter le pont de Marne à midi le 12 juin 40. Et les Allemands ne peuvent pas franchir la rivière de la Marne à Châlons, c'était leur objectif, pour filer vers le sud.
D'accord. Donc, avec les massacres qui ont dû avoir lieu de vengeance.
Vengeance tout de suite. Les Allemands, comme ils ne sont pas contents, vont incendier donc, la place aux chevaux, la rue Léon Bourgeois, la rue Grande Étape, toute la rue Jean Jaurès. Et on a un bombardement d'artillerie de la rive gauche.
D'accord.
Donc au total, y aura une centaine de soldats quand même qui meurent sur 550. C'est 15 à 20% des effectifs. Et 13 civils. Hein, ils étaient plus de 124. On avait bien évacué la ville. 13 civils vont perdre la vie pendant ces combats. Et une fois la bataille de Châlons gagnée le 15 juin 40, ça va vite. 17 juin, les Allemands sont à Pontarlier, frontière franco-suisse. La ligne Maginot, c'est cuit. Voilà, on est encerclé, on ne peut plus gagner. Pétain devient président du Conseil, demande l'armistice. Le 22 juin, c'est signé. Et donc Châlons se retrouve dans cette position très délicate. Zone occupée, pas très loin de la zone interdite, avec les Ardennes, une partie de la Marne. Et donc ville frontière avec l'Allemagne, puisqu'on va être... Avec l'Alsace-Moselle annexée, on n'est pas très très loin.
D'accord. Alors, avec sûrement de superbes histoires, puisqu'on a quand même les Ardennes, les Vosges un petit peu plus bas. Superbe histoire de la résistance,
mais ça
sera peut-être l'objet d'une autre émission.
Oui, effectivement, on va avoir des nids de résistance voilà, à Châlons. Donc, l'abbé Gillet, lui, il était aumônier dans l'armée. Il est fait prisonnier à Lille, il s'enfuit à vélo et il revient à Châlons le 18 juin, le jour de l'appel du général de Gaulle. Et lui, il voit Châlons, mais complètement en ruine. Il y a 300 immeubles qui sont détruits par les Allemands. Et lui va rentrer en résistance, alors il va aller dans la commission municipale provisoire, le maire est parti, on lui a demandé de partir, le temps qu'il revienne d'Exode, il faut une administration provisoire, l'abbé Gillet sera dedans.
D'accord.
Et à la suite il va faire des faux papiers, voilà, avec un imprimeur chalonnais, à chaque fois qu'il y aura un prisonnier de guerre français qui s'évade, on essaye de le cacher à Châlons et lui va leur faire des faux papiers.
Alors, est-ce que l'histoire qui circule comme quoi... Les sous-sols de la mairie de Châlons-Champagne ont servi de cache.
Oui.
C'est une histoire vraie, ça ?
C'est une histoire vraie. Les caches existent toujours. J'ai eu la chance de les faire visiter il y a à peu près 2 ans. Effectivement, il y a tout un réseau qui avait été fait en dessous en se disant si jamais on est attaqué, on va survivre, les obus. Donc, il faut se dire que c'est un peu comme des caves de champagne, façon Joseph Perrier, vous avez de la craie. Et il y a des endroits, il y a des renforts. Ça fait... On imagine un casque de soldat. Version grandeur nature, au niveau du sous-sol, ça fait une espèce de cloche renforcée. Et tout ça, ça a été construit dans l'entre-deux-guerres en se disant, s'il y a un souci, on se réfugie là-bas. Et il y a eu des caches, effectivement, là-bas.
On peut visiter d'ailleurs ces sous-sols de la mairie lors des journées du patrimoine en octobre.
À septembre, oui, voilà,
septembre,
c'est ça, septembre, donc, fin septembre.
Sur inscription, mais bon, on en reparlera.
Et c'est à faire, effectivement, ça vaut le coup d'œil. Et c'est vrai que sur Châlons, on a 31 000 habitants à l'époque et on avait réussi à construire des abris pour cacher 21 000 personnes.
D'accord.
Donc quasiment, voilà, pas 100% tout à fait, on est d'accord, mais ce qui fait que le bilan est faible au début de la guerre.
Alors on les cachait où ? Dans les caves ?
Dans les caves.
Dans le fameux fort qui a été découvert près de la gare ?
Oui, on en avait là-bas, on en avait donc dans les caves de Champagne, voilà. Les caves médiévales qui sont sous la place Foch, elles ont servi d'abri. Il y en avait en dessous de la poste actuelle, parce que c'était l'hôtel Dieu avant, elle était bombardée. Il y avait des abris là-bas. Donc il y avait tout ce réseau qui était sous la ville pour cacher les civils, ce qui a plutôt bien fonctionné d'ailleurs.
D'accord, avec bien sûr on les prévenait par avance. Les fameux canons qui préviennent, la sirène.
Sirène, voilà, effectivement, qu'on identifie à l'époque comme les alertes anti-aériennes. Mm-hmm. Voilà. On connaît bien maintenant, premier mercredi du mois, les jeux vidéo, vous avez le jeu vidéo Silent Hill qui reprend cette fameuse sonnerie quand il se passe quelque chose.
D'accord.
Donc c'est identifié de tout le monde, dès qu'il y a ça, on sait qu'il faut partir dans les caves, quelque chose se passe.
D'accord, alors on répète un plus maintenant.
Oui, voilà, c'est un exercice maintenant.
Voilà, tout à fait. Donc on est sous l'occupation, le maire est parti.
Oui.
On refait un conseil municipal provisoire. Il y a quand même eu des grands noms qui se sont dégagés.
À l'époque, donc, l'abbé Gillet va commencer à se faire connaître comme ça. On aura Jules Heller, alors, qui est inspecteur d'académie et qui va faire partie justement de cette commission. Et ils vont gérer Châlons alors, l'espace de 2 mois. Voilà, le temps que le gouvernement de Vichy se mette en place, le temps que le maire revienne d'Exode. Et donc Châlons est complètement en ruine. On disait 300 immeubles qui sont détruits. Et la ville, au début de l'occupation, c'est 18 000 Allemands qui l'occupent. Donc c'est énorme. Avec la préfecture qui est réquisitionnée, l'ancienne chambre d'agriculture cour d'Ormesson qui va devenir le siège de la Gestapo, la police politique allemande, et au niveau de la rue Pasteur, la Feldkommandantur, le tribunal militaire. Donc Châlons est cerné, et comme le dit effectivement l'abbé Gillet, c'est Châlons sous la botte. Voilà, c'est vraiment une des villes occupées du Grand Reich qui va être la plus, je dirais, muselée. Effectivement, il y a un sacré mappage. Et la Gestapo va avoir des antennes à Reims, va avoir des antennes à Troyes, à Chaumont. Donc toute la région va être ceinturée comme ça.
Avec un énorme traumatisme pour la population, évidemment.
Oui. Et en plus, on a les rationnements. Donc les Allemands, ça doit être 400 millions de marques. Donc l'euro de l'époque pour les Allemands, d'indemnité de guerre par jour. C'est énorme. Voilà, ça va vraiment asphyxier les Français. Et tout ce qui va être pommes de terre, viande, champagne, les 3/4 sont réquisitionnés par les Allemands. Et on se retrouve avec ces fameux tickets de rationnement. Alors qu'on a du blé en France, on a tout ce qu'il faut, mais tout est ponctionné par les Allemands.
D'accord. Et là, en parallèle, a dû se mettre un fameux réseau aussi de solidarité,
oui,
et de commerce noir.
Voilà, marché noir. Donc tous les gens qui étaient agriculteurs ou ceux qui avaient un petit potager en général, bah, ils se mettaient en autosuffisance. Et ensuite, bah, on pouvait avoir 3 carottes pour aujourd'hui l'équivalent de 100 euros. C'est complètement fou de se dire ça. Mais on essaye de survivre. Voilà, c'est vraiment ça. Et en parallèle, bah, y a la Gestapo qui traque tous les opposants au régime. Très dur. Alors, on aura 49 fusillés au total à Châlons. Donc les premières exécutions, ce sera à la caserne Tirelet, ce qui n'est pas discret du tout. Donc les Allemands vont s'éloigner au niveau du champ de tir. C'est avenue Sarail, c'est la gendarmerie aujourd'hui. À l'époque, c'est un terrain où on s'entraîne au tir. Et ensuite, on va beaucoup plus loin, ils vont sur la butte des fusillés, voilà, pas très loin de l'Épine, où là, les Allemands peuvent liquider, mais sans que personne ne voie rien, sans qu'on entende.
Et là, le fameux endroit qui d'ailleurs est visité par les,
oui,
scolaires.
Tout à fait, oui, pour la citoyenneté, leur montrer, il y a toujours les poteaux d'exécution, et ça a été réaménagé, donc oui, 49 personnes qui vont être condamnées à mort par la Feldkommandantur, et ensuite liquidées.
Et qui, en plus, certains ont été liquidés vraiment la veille,
oui,
de la libération.
Oui, oui, oui. Les derniers fusillés officiels, parce qu'il y en a qui ont été faits voilà, comme ça, c'est le 4 août. Et Châlons est libéré le 29 août 1944,
ouais,
donc très peu.
On y était.
Et on avait aussi des déportés. Alors ça, c'est aussi l'autre drame de Châlons. Comme on est sur la ligne Paris-Est-Strasbourg, eh bien, tous les déportés juifs qui vont être arrêtés dans la région, il y aura un camp de transit à Châlons, dans une des casernes. On fait Châlons-Drancy, et ensuite Drancy-Auschwitz, 3 jours, 3 nuits. Châlons va être une gare de transit pour tous les juifs qui vont vers Auschwitz. Là, ces situations sont très difficiles, très critiques. Les Châlonnais ne s'en rendent pas forcément compte. Et effectivement, que les cheminots qui témoignent en disant « mais on voit passer les wagons à bestiaux, des fois avec des petites mains qui sortent, c'est des enfants qui veulent de l'eau. » Et la Gestapo qui est là les tient en joue en disant « si vous y allez, on vous liquide ».
Notamment la gare de Châlons. Donc.
Oui, la gare de Châlons, voilà, qui a été vraiment une gare pivot dans la Seconde Guerre mondiale à ce moment-là. Donc ça fait beaucoup, on se dit Gestapo, tribunal militaire, déportation des Juifs, prisonniers de guerre. Châlons, voilà, vit vraiment des heures sombres. Et les réseaux de résistance, voilà, petit à petit, vont être décapités. Robert Tritan, avec son grand réseau, en 1944, tout est découvert. Et lui va être fusillé, justement. Il fait partie des derniers fusillés. Et les déportés, mais on aura notamment M. Songy. Grâce à lui, on a l'ouverture avec M. Chabot de l'ancien siège de Gestapo qui est à Châlons. C'est le seul conservé en France et il n'y en a que 3 en Europe. Donc c'est des raretés. Et M. Songy, bah, il est arrêté donc, le 14 août. Encore une fois, alors pas à Châlons, il est dans les villages aux alentours, et il est déporté, ça c'est le drame, au départ de Châlons, 19 août.
Avec une libération, voilà. 10 jours après.
Et donc ensuite, bah, il va être déporté au Struthof, ensuite il va aller dans les pires des camps, il va être du côté de Dachau. Il en revient en 1945, et donc il est décédé il y a quelques années, Monsieur Songy. Mmh. Mais on a déporté, voilà, les Allemands, vraiment déporté jusqu'au bout.
Jusqu'au bout.
C'est 19 août 1944, 29 août on est libéré. Et on a même eu le passage de la milice. Voilà, Joseph Darnand, qui est le ministre d'État à l'intérieur, est le chef de la milice. Il évacue la France. Il se retrouve à Châlons. Il va être reçu officiellement par le préfet. Voilà, alors préfet, il y en a eu deux. Premier préfet de la Marne, qui va devenir préfet régional, c'est René Bousquet. Donc c'est pas un nom qui est inconnu. La rafle du Vélodrome d'hiver, c'est lui.
Donc à fond dans le gouvernement de Vichy.
Complètement, oui, collaborateur zélé. Mmh. Voilà, et ça n'a pas été une période facile pour Châlons. Et ensuite, on a M. Peretti de la Rocca qui va être le fameux préfet suivant. Et c'est lui qui reçoit Joseph Darnand, le chef de la milice, avec tous les honneurs, au mois d'août 1944, quelques jours avant la libération de Châlons.
Il y a dû avoir des comptes qui se sont réglés par
oui,
la suite.
Oui, effectivement, à la libération, ah ben on a donc les Américains nous libèrent, 3e armée US de Patton, 4e division blindée. Donc il y a des escarmouches, on a quand même le canon qui tonne toute la nuit du 28 au 29 août. Les Américains, bah, comme les Allemands ont cassé les ponts, ils vont passer par Sarry, ils vont passer par l'Épine, ils vont passer par la route de Reims. Tout le monde se rejoint, place de l'Hôtel de Ville, c'est la fête. Donc on va jouer la Marseillaise au carillon de Notre-Dame-en-Vaux. Alors j'essaye d'imaginer, ça va être super beau à entendre. Et donc les Américains arrivent, passent sous la porte Sainte-Croix. Et très vite, on a les FFI, les forces françaises de l'intérieur, bah, qui vont commencer à aller chercher les femmes dont à l'époque on pensait qu'elles avaient eu des relations avec les Allemands.
Les fameuses tonsures.
Tondues, hein. Voilà, en place publique, avec la foule qui fait bouh. D'autres qui sont arrêtés. On retrouve des collaborateurs en disant « Ah, tel inspecteur de police, à la rigueur, il était bien avec les Allemands. » Hop, on l'arrête, en prison. Et donc, il y a pas mal de règlements de compte à ce moment-là, oui. Et on va même changer de maire. Voilà, M. Bruyère, mais il avait été nommé par Vichy en 1942. Donc, dès la libération, vous avez un commissaire de la République, M. Grégoire Guislain, qui va avoir la fonction un peu de préfet régional. Va nommer un nouveau maire, ce sera M. de Lévaque, voilà, maire provisoire. Et on se retrouve, comme en 1940, avec une commission municipale provisoire. Le temps de faire des élections en 1945.
Voilà. Et d'espérer une paix durable à ce moment-là.
Voilà, c'est ça. Oui. Et Châlons commence à revivre. Et c'est vrai qu'il faut attendre 1946-1947 pour qu'il n'y ait plus du tout de rationnement et que les Américains, bah, qui ont pris la suite des Allemands, mais sans exaction, quittent la France. Donc ça a été très long, voilà, cette période. On a 40-44 les Allemands avec la terreur et ensuite 44-46 les Américains qui nous aident. Et 47, on revient à peu près à la normale. Et c'est le moment où on va commencer à reconstruire Châlons. Destruction donc de 40 et de 44 quand les alliés nous ont bombardés aussi.
Alors mon cœur de fille, mon cœur fleur bleue dit que peut-être il y a eu des belles histoires d'amour aussi,
oui,
entre les Américains et des Chalonnaises.
Tout à fait.
Avis, hein, ceux qui nous écoutent,
oui,
si vos grands-parents
pas.
Ont eu ce genre d'histoire, peut-être se sont mariés ou sont partis après aux États-Unis. Écrivez-nous, téléphonez-nous.
Ah oui, je sais qu'on a des exemples. Quand je vais visiter le bunker, voilà, qui est derrière la gare, qu'on a retrouvé il y a quelques années, et il y a un graffiti dedans justement. Il y a un soldat américain qui a mis son régiment. Et il a mis, alors presque comme une photo, il a fait ça au couteau, dans le bois d'une pièce du bunker. On voit sa tête, la tête de son ami à l'époque. Le monsieur s'appelle Clyde Tracy et il dit en anglais « Yvette my heart, remember Clyde Tracy, Arizona City, USA, Oregon ». Il a tout mis et je fais les recherches actuellement pour savoir s'il n'y aurait pas des descendants.
Ah, c'est génial, mais écrivez-nous, hein, si
voilà,
vous avez entendu parler
la
de quelque chose.
La belle histoire.
Ouais, ça doit être génial. Hein. Puis il doit y avoir des bébés qui sont nés sans,
oui,
avec le papa reparti,
voilà,
moitié américain.
Comme souvent, à cette époque-là, oui.
On ne peut pas parler non plus d'occupation sans avoir un petit mot pour Pierre Dac.
Oui, voilà, l'enfant du pays, voilà, il est né à Châlons sur la fin 19e siècle. Et donc sa famille, à la base, elle vient de l'Alsace-Moselle, qui s'est fait annexer après 1870. Et donc il va naître dans la rue de la Marne. Voilà, il y a toujours actuellement, quand on y passe, volet ouvert, enfin volet fermé plutôt, on a cette petite plaque qui rappelle sa maison natale. Il va rester quelques années à Châlons avant de partir à Paris. Et voilà, il va devenir l'homme de radio, l'humoriste. Et donc, dès le début de la guerre, quand ça sent le roussi, effectivement, il va rejoindre le général de Gaulle à Londres, et ça va être une des stars de la BBC. Bon, allez, il va faire ses émissions très humoristiques, mais super piquantes. J'invite les auditeurs, vous pouvez lire
on
les livres de
Biendack,
on retrouve le sonore. C'est du caviar, effectivement, il va pas avec le dos de la cuillère, comme on dit. Il va critiquer le gouvernement de Vichy, il va critiquer les secrétaires d'État de l'époque. Et c'est effectivement des grands résistants chalonnais. Il n'est pas à Chalon pendant la guerre, il est à Londres, mais il va mobiliser effectivement les troupes. Et nombreux sont les personnes, même en dehors de Chalon, avoir entendu Pierre Dac en se disant « Mais dis donc, c'est un génie, voilà, il a cet humour particulier. »
Je pense que sa tête était mise à prix.
Oui, les Allemands auraient bien voulu l'avoir, sachant qu'en plus, en 1938, il avait fondé L'Os à Moelle, voilà, son journal satirique. Donc ça fait beaucoup, effectivement, mais c'est un des leaders de la résistance sur les ondes. Et donc, après la guerre, lui va revenir dans les parages, et c'est là qu'il va être décomplexé au niveau de son humour, il retourne fortement dans l'absurde, et avec Francis Blanche, voilà, il y aura le fameux Schmilblick, et tout cet humour absurde qui vont faire de lui une superstar.
Merci.
Mais c'est vraiment la Deuxième Guerre mondiale qui est le pivot pour moi, pour Pierre Dac.
Et puis on peut aller aussi rencontrer Eric Nobis,
oui.
Le comptoir du café, qui détient des exemplaires de L'Os à Moelle d'ailleurs. Et qui est le président, je crois, de l'association.
Il me semble, oui. Il a même créé un café Pierre Dac, justement, en hommage.
Et la dictée Pierre Dac.
Oui, tout à fait. Donc c'est vrai que c'est une figure bien connue, mais il faut jamais oublier Pierre Dac. Il faut le rattacher à la Deuxième Guerre mondiale. C'est le pivot. Voilà, c'est effectivement le moment déterminant dans sa carrière qui, pour moi, le décomplexe.
L'homme de radio, hein, on écoutait Pierre Dac... avec le TSF,
oui.
En cachette.
Voilà, c'est ça. Bon, pas que les Allemands, effectivement, on l'écoutait religieusement.
Merci beaucoup, Aurélien,
Merci.
Pour toute cette histoire.
Merci.